pour une histoire. Il y a longtemps, mais pas aussi longtemps que ça, il y a quelques années, j'étais en vacances dans la Creuse. Et je faisais des promenades avec ma chérie Sylviane. Et on était juste un couple là, c'était magnifique. On n'avait pas des enfants. Et on se promenait dans les forêts, c'était magnifique. Il n'y a pas beaucoup du monde dans la Creuse. On a vu des vaches, on ne croisait pas beaucoup du monde, on était là et on transpirait en route et tout ça. Et après, là où on était logé, il y avait un jacuzzi, c'est ça? Super. Et à la fin, on se mettait en petit maillot de bain, on était dans notre jacuzzi. C'était là. Et tout d'un coup, je voyais la cuisse de Sylvia. Et sur cette cuisse, il y avait une petite tache noire. Je dis, mais c'est quoi ça? Et en m'approchant de la cuisse de Sylvia, j'ai vu une tique. Oh là là, une tique. Et donc, j'ai dit, que faire? Parce qu'on ne peut pas juste les arracher n'importe comment. Hein. Et donc, voilà, il y a toute une histoire. Ça va gêner Sylviane si je dis plus. Mais quand même, j'ai pris mon autorité spirituelle. Et j'ai dit, tic, va. Tic, va. Hein? Et après, bon, la tic est partie. Mais bon, pourquoi? Pourquoi un drôle d'histoire comme ça? Tic va! Si vous avez ça dans votre tête maintenant. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Tic va. Tic va. Tic va. Tic va. Ha 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 tic va comme ça. Tic va. Tic va. Ça veut dire quoi? Tic va. Tic va. L'espérance. L'espérance en hébreu, l'espérance, tikva. On n'a rien à faire avec des tikva, mais c'est pour que ça reste dans votre cœur. Tikva, tikva, tikva. Je veux proclamer tikva sur vos cœurs ce matin. C'est le message que le Seigneur donne. Espérance. Et vous savez, l'hymne national d'Israël, c'est hatikva. Et ça veut dire l'espérance. C'est... Bon, j'ai cité deux ou trois versets de cet hymne national. Il dit, l'espérance, nos cœurs vibrent, tournés vers Sion. Et après, les couplets au milieu de Hatikva, notre espoir n'est pas vain, quand même. Là, c'est littéralement un peuple qui a traversé les hauts et les bas de l'histoire, mais... J'imagine quelquefois quelqu'un qui est dans sa misère, qui est dans le pire moment avec les persécutions et tout ça, qui dit « Notre espoir n'est pas vain, tikvar n'est pas vain. » Espérance bimillénaire d'être un peuple libre sur notre terre. D'être un peuple libre sur notre terre. Et donc là, je ne veux pas juste parler d'Israël, là, mais je veux parler de tout le peuple. Jésus est venu pour que cette promesse de Tikva soit pas juste sur le peuple d'Israël, mais que ça soit sur toutes les nations, sur tous les pauvres comme nous, qu'on peut venir et entrer, même avec nos péchés et tout. Jésus, il est l'ami des pécheurs. Il est l'ami des pécheurs. Et il accueille tout le monde. Et il veut nous donner une espérance pour vivre libre sur notre terre. Et notre terre, notre terrain, c'est notre cœur. Ça, c'est le premier terrain qu'on a. De vivre libre dans mon cœur, libre de la crainte, libre de la honte, libre de toutes sortes de choses. Et on est lié par un tas de choses. Bien sûr, on est lié par nos péchés. Mais moi, je ne veux pas condamner les gens à cause de leurs péchés. Je veux dire, Jésus vous libère de vos péchés. Il vous gracie. Et en tout cas, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez donner de l'argent, faire une petite prière d'absolution, tout ça, ça ne marche pas. Il n'y a que la grâce et l'amour de Jésus qui vous libère. Et nous, on peut avoir une espérance de liberté. Parce que c'est vrai, sur cette terre, on est quelquefois plutôt esclave que libre. esclaves de nos pulsions, esclaves de nos colères, esclaves de ces relations quelquefois qui tournent en rond. Il dit, il y a certaines choses, je dis, mais Seigneur, je ne suis pas libre dans cette relation. Il y a toujours la tension, il y a des amertumes anciennes, il y a mes souvenirs, il y a toutes ces choses-là. Mais Dieu veut qu'on soit libre sur notre terre. Voilà, la liberté de cœur. Et j'espère que mon message ce matin, ça va vous aider. Bon, je ne promets pas mon et merveille, mais tikva. Allez, on va enlever les tics avec la tikva. C'est quelquefois, il faut un outil spécial, non, pour enlever les tics. Et là, il faut enlever les tics avec le tikva. Hein, avec l'espérance. Et donc là, je vais enfoncer le clou. Hein. Pour ceux qui étaient ici la semaine dernière, je vous avais partagé que très tôt le matin, dans ce moment entre le sommeil et le réveil, on est bien au lit, c'est le meilleur moment de rêver. C'est le meilleur moment d'être un peu dans un monde un peu plus spirituel. En tout cas pour moi, c'est peut-être chacun à leur moment. Hein. Mais là, c'est quand tu me réveilles, 5 heures, quelquefois, un premier réveil comme ça, et c'est un peu trop tôt pour sortir direct du lit, mais on est là, c'est silencieux, on est dans l'obscurité, on est là, et souvent c'est là où Dieu nous parle. Et tu dis, mais est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est mes pensées? Voilà, on est tous comme ça, hein. Peut-être c'est mon imagination, mais donc, souvent, après 33 ans de vie avec le Seigneur, je sais quand il me parle, ça me saisit, c'est clair, c'est net, c'est limpide, ça libère quoi. Et j'avais partagé ce verset qui donnait pour nous, en tant qu'Église source de vie. Et j'avais partagé de Jérémie, et Colette, elle m'a fait un petit clin d'œil ce matin, parce qu'elle a lu aussi au début de la louange, et c'est Jérémie 29 et 11. Jérémie 29, 11. Et donc j'enfonce de nouveau le clou. Je connais, moi, les desseins. Même on peut dire les pensées, là, en hébreu. Je connais les pensées que j'ai pensées pour toi. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à moi? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à moi? Tu sais, oui, Dieu, il pense à vous. Il faut croire en lui, premièrement, mais il pense à vous. Et il dit, je connais des pensées que j'ai pensées pour vous. Pensées de paix, allez. Pensée de shalom et non de malheur. Et après, c'est cette dernière partie que je vais appuyer aujourd'hui. Afin de vous donner un avenir fait d'espérance. De vous donner un avenir fait d'espérance. Vous savez, chaque être humain, qu'il soit croyant, non-croyant, bouddhiste, hindou, tout ce qu'on veut, le propre de l'homme, c'est que vous êtes tous prophétiques. Vous savez ça? Vous pouvez prédire l'avenir. Chacun de nous. Vous avez cette capacité. Ce n'est pas que les diseuses de bonne aventure et tout ça. Mais chacun de vous ici, ce matin, vous avez... Et vous le faites chaque jour. Vous êtes très pratiquant. Oh, je suis pratiquant. Oui, vous êtes pratiquant en prophétisant l'avenir. Et vous avez deux structures en vous qui vous permettent de faire ça. D'accord? Vous êtes un peu étonné, mais qu'est-ce qu'il va sortir de... Quel lapin il va sortir du chapeau encore? Et donc, voilà, c'est très évident, d'accord? Le premier capacité qui est un peu négatif, c'est les soucis, les inquiétudes, l'anxiété. D'accord? Parce que chaque fois que vous êtes accablé par ça, vous dites, ah, oh, demain j'ai... C'est comme ma fille, bon, elle n'est pas ici ce matin, mais en ce moment, elle fait des cours de conduite. Mais ce n'est pas possible. Une demi-heure avant, oh, elle tremble comme une feuille. Oh, elle devient toute blême. Elle dit, oh, je vais avoir un accident. Oh, ça ne va pas marcher. Oh, quand elle doit prendre un examen, elle est comme ça une semaine avant. Ça ne va pas marcher. Ça va être... Et elle est en train d'exercer par l'anxiété cette capacité prophétique, mais dans la mauvaise direction, d'accord? Vous connaissez ça, vous? Je ne sais pas à quelle heure ça vous arrive, quelquefois au milieu de la nuit. Ah! Et après, vous faites le film. Ça ne va pas aller, ça va être mauvais. On est tous comme ça, hein? C'est le propre de l'homme. On a tous cette capacité prophétique de prédire le mal. Et le mal qu'on prédit, c'est rare que ça arrive. Honnêtement. Et dans la Bible, il dit partout, n'utilise pas cette capacité-là. Ne vous inquiétez pas. Libérez-vous de cette capacité de prédire ce qui est mauvais. Même si je dis « libérez-vous », je sais que vous allez toujours rester là-dedans. C'est le... Mais en même temps, on peut améliorer la chose. Et donc, qu'est-ce que c'est la deuxième chose? C'est évident, l'espérance. L'antidote des soucis, des inquiétudes, des anxiétés. L'antidote, c'est l'espérance. Pratiquer l'espérance. On pratique beaucoup plus les inquiétudes que l'espérance, n'est-ce pas? Est-ce que vous, avant d'aller au livre, « Ah, mais demain, ça va être bien. » Non, mais c'est l'espérance. J'espère, demain, ça va être super. Cette personne-là, demain, c'est l'espérance. Non, on, c'est négligé. C'est comme si on a deux bras, là, on fait l'entraînement, musculation. Grosse muscle, là. Ça, c'est le muscle d'inquiétude. C'est énorme. Mais l'autre muscle d'espérance, c'est quoi? C'est négligé. Et on est déséquilibré. Et c'est le propre de l'homme d'être déséquilibré d'une manière négative. C'est pour ça. Tikva, l'espérance. Je veux être une personne libre sur ma terre. Et donc, pratiquant l'espérance, exerçant ce don prophétique qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas encore. On appelle à l'existence notre avenir par l'espérance. Et on... La foi commence avec l'espérance. Hein? Il faut espérer pour croire. Et nos espérances deviennent nos réalités. Vous voyez, c'est... Et Christ est notre espérance. Parce que l'ultime espérance, d'accord? L'ultime inquiétude de l'homme, même les psychologues vont vous dire ça, l'ultime inquiétude, c'est la mort. Un jour, je vais mourir. Et donc, tous nos échecs, toutes nos craintes, toutes nos phobies viennent de ça, finalement. En tout cas, ce que Freud dit, mais bon, il y a d'autres... Mais on va vers la mort. Donc, c'est tout petit échec, ça prépare le grand échec. Voilà. Et donc, on est livré à ça. Mais qu'est-ce que c'est l'espérance? La résurrection. Tout tourne autour de ça. Si je devais réduire la vie chrétienne, la foi et tout dans un mot, je dirais, est-ce que tu crois à la résurrection ou non? Et Jésus, il a subi la croix, c'est vrai, il a payé le prix, tout ça pour nos péchés. Mais 3 jours après, il n'est pas resté cloué à la croix. Ça c'est un peu, Jésus toujours, je m'inquiète, est-ce que je vais me ressusciter? Ça va mal tourner, tu vois, tu imagines, voilà, je suis toujours là, crucifié, ah, je m'inquiète. Est-ce que j'ai vraiment gagné la victoire contre l'ennemi? Est-ce que j'ai gagné la victoire? Mais il n'est plus sur la croix. Il règne à la droite du Père, dans le ciel. Tout puissant, au nom de Jésus, tout genou doit se fléchir et toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. Il n'est pas cet emblème crucifié, misérable. Il est le lion de Juda. Et il rugit avec victoire. Il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui et par le Saint-Esprit. Il vit en nous. Et cette conviction de résurrection, cette expérience que nous faisons d'être ressuscité avec lui, assis avec lui dans les lieux célestes, ça nous donne de l'espérance chaque jour. Il y a 2 camps dans cette vie. Il y a le camp des gens qui se tourmentent avec l'anxiété tous les jours. Il y a les gens qui vivent et qui mettent en pratique leur espérance. Et je vous appelle à espérer. Tikva, tikva. Et donc, j'ai des projets, des pensées de shalom, et je vous donne un avenir, une vie faite d'espérance. Mais c'est beaucoup mieux que ça. Parce que quand j'ai regardé tikva, tikva, vous savez, on trouve... Tikva, dans le livre, bon, c'est partout, hein, mais on trouve un tikva très, très intéressant dans l'histoire de Josué. Et surtout la partie quand ils veulent prendre le pays de Canaan, c'est Josué chapitre 2, hein, pour ceux qui veulent suivre. On connaît tous l'histoire de Josué, grand conquérant. Et Il y a un moment, Josué, il envoie deux espions pour un peu regarder le pays, surtout Jéricho, hein, c'est là, ils entrent, ils disent, ouais, Jéricho, on va faire un peu une reconnaissance des lieux. Mais malheureusement, en arrivant, ils tombent mal, parce que les gens, ils savent qu'ils vont arriver, ils ont besoin d'être cachés. Et donc là, on voit la grâce de Dieu, hein, parce qu'ils ne vont pas se loger chez le pape ou chez les dignitaires ou chez le premier ministre du pays. Mais ils trouvent une place. Ils trouvent une place où? Voilà. C'est chapitre 2 et verset 1. Ils partirent, ces deux gaillards, et entrèrent dans une église évangélique où ils faisaient la louange et où ils étaient très gentils. Ah, ils sont entrés en source de vie, où ils étaient tous des bons gens, comme ça. Non, 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 non. Pardonne-nous, Seigneur, une église qui est tellement jugeante quelquefois. Mais ils partirent et entrèrent dans la maison d'une prostituée dont le nom était Rahab. Bravo. Là, Dieu va entrer dans tous les cœurs pour donner la liberté. Mais là, ils ont trouvé une maison là. Et c'est très intéressant ce qui se passe dans cette maison de Rahab. Et c'est aussi très intéressant, voilà, je dirai ça après. Rahab. Et donc après, voilà, le roi de Jéricho, il envoie les gens chercher ces espions. Mais Rahab les cache. Et elle dit quelque chose vers verset 11. Elle dit, elle a eu une révélation. Elle dit, car l'Éternel, votre Dieu, c'est verset 11, est Dieu dans les cieux là-haut et sur terre ici-bas. Et maintenant, faites-moi donc un serment par l'Éternel. Comme j'ai usé de loyauté envers vous, vous aussi vous userez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui est à eux. Et vous nous ferez échapper de la mort. C'est une bonne demande de Rahab. Premièrement, c'est un peu ce qui nous arrive quand on est chrétien. On reconnaît premièrement, il y a une révélation. Voilà, Dieu est le vrai Dieu. Voilà, ton Dieu, il est le Dieu des cieux. Et donc là, pour entrer dans cette histoire, hein, il faut quand même avoir la foi et croire en Dieu. Et donc là, elle reconnaît ça. Et elle dit, mais est-ce que je peux faire une alliance avec vous? Et c'est ce que Dieu nous demande. Il dit, mais est-ce que faites une alliance avec moi? Dis, Seigneur Jésus, je crois en toi, je veux te suivre. C'est ça qu'on devient chrétien, c'est une sorte d'alliance. La Sainte Cène et tout ça, ce sont des alliances, des engagements avec Dieu. Et donc, il fait une alliance. Et elle parle de loyauté. J'ai utilisé de loyauté envers vous, vous aussi, vous userez de loyauté envers moi. C'est une demande de loyauté. Mais le mot loyauté, là, c'est « hesed ». Et ça veut dire, c'est un mot d'alliance. Ça veut dire amour indestructible, amour éternel, un amour qui est énorme, qui nous guérit, un amour qui pénètre notre vie de vitalité et d'éternité. Moi, je veux cet amour. Elle demande cet amour « hesed ». Hesed, je veux cette Hesed dans ma vie. Et il dit, je veux que cette Hesed soit sur moi et sur ma famille. Mais c'est bien ça. Et qui nous crée le plus de soucis? Nos enfants, nos parents. Non, bon, peut-être pas vous, hein, mais si je dois exercer mon don prophétique, je le fais toujours d'une manière assez négative sur mes... Ah, ça va pas aller. Oh, il a fait le mauvais choix. Ah, ça va mal aller, ça va mal aller, ça va mal aller. Et j'ai fait des soucis. Et ça m'aide pas, quoi. Et donc, elle dit, mais je veux faire une alliance pour que ma famille, et elle fait une liste, vous laisserez vivre toute la famille. Mais elle demande l'amour. Et après, elle demande la vie. On veut pas mourir. Hein? On veut échapper à la mort. Et c'est ça aussi qu'en être Dieu. Au fond, ça nous libère de la mort. Et ça nous met dans ce paradigme de résurrection. Ça nous libère de la mort. Pas juste à l'éternité. C'est un jour, On va physiquement mourir, et ceux qui ont la foi en Jésus, ils vont ressusciter. Alléluia. Physiquement, on aura des corps transformés, transfigurés. C'est un mystère, hein? Je ne peux pas expliquer exactement comment ça va se faire. Mais bon, on a cette espérance. Mais déjà, on n'a pas besoin d'attendre le jour de la mort. Chaque jour, je vis comme un ressuscité. Chaque jour, je vis dans cette tikva d'espérance. Tikva d'espérance. Et donc là, on voit en Rahab, elle a tout compris. Et après, elle dit, il faut me donner un signe. Vous savez, ce signe a traversé nos cultures. Je ne sais pas en France, je ne suis pas assez adepte à ces choses. Mais en Angleterre, à Soho, si tu vas à Soho, bon, on rigole parce qu'on parlait de Soho hier, mais c'est le quartier chaud de Londres, Soho. Et il y a pas mal de prostituées. Et dans ma culture en Angleterre, la prostituée, elle mettait quoi dans la fenêtre ? Une lumière rouge. Ça fait ça ici en France aussi ? Ça vient d'où ? Oui, avant. Maintenant, c'est tellement banalisé, on voit ça à France 2. Hein. Mais bon. Mais dans le passé, c'était plus caché, et donc on est plus discret. Donc la dame, elle laisse une petite lumière rouge dans la chambre. Oh, voilà. Voilà. Mais ça vient d'où tout ça ? Même dans la culture, tu vois, ça vient de cette histoire. Ça vient de cette histoire de Rahab. Parce que qu'est-ce que c'était le signe pour Rahab ? Qu'est-ce qu'elle devait mettre ? Verset 18. Parce qu'elle demande un signe. Donne-moi un signe qui soit certain. Moi, j'aime bien qu'elle ajoute. Je veux pas du talk ici, je veux quelque chose de solide. Allez, donne-moi un signe solide. Peut-être aujourd'hui, vous avez besoin d'un signe que Jésus est vivant. Vous avez besoin d'un signe que ce n'est pas juste un tas de baratins, la religion et tout ça. Non, il y a un signe. Que Jésus est réel, même dans ta propre vie. Les gens n'ont pas besoin de t'entendre encore les xème fois tes doctrines, tes machins. Ils veulent voir un signe réel que tu sois chrétien, que ça soit marqué en toi. Et donc, qu'est-ce que c'est ce signe certain ? Verset 18. À notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil écarlate. Tu as tout compris. Et c'est de là où on a toutes nos cultures de fil rouge, de lumière rouge, écarlate. Mais un fil écarlate, ça part du sang de Jésus. C'est des fils écarlate de son sang qui a coulé sur la croix. Et c'est déjà dans l'Ancien Testament prophétiquement marqué d'un côté que ce sang va sauver tout le monde, qu'on soit prêtre ou prostitué. Ils ont tous besoin. Il n'y a pas de différence, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Qu'on soit petit pécheur ou grand pécheur, on a besoin d'être sauvé, quoi. On est tous sur le même rang, il y a une démocratisation de péché. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. On a besoin d'être pardonné, on a besoin de ce fil écarlate. Et il faut le mettre à la fenêtre. Hein? Et comme ça, avec toute ta famille, ta maison, tes frères seront sauvés par ce signe. Donc là, ça va jusqu'à présent. Mais où est le tikva dans tout ça? Je vais vous dire que j'étais très très étonné de découvrir que le mot tikva, pour nous on dit espérance, mais en hébreu, le premier sens de tikva est cordon, corde, la corde. C'est une corde. Ça veut dire corde. Et c'est la notion qu'on s'accroche à une corde. On s'accroche à une corde. Voilà, on s'accroche à une corde. C'est notre espérance. Parce que c'est une langue imagée, l'hébreu. Ce n'est pas une langue abstraite. Et donc souvent, leurs mots, bon, par traduction, partout, on dit espérance, espérance, espérance. Mais littéralement, tikva, quand tu dis tikva, c'est une corde. Et ici, on dit un cordon. Cordon ombilical, voilà. Nourris-moi d'espérance. Tu sais, il y a certains, vous êtes nourris d'inquiétude dans la famille. Oh, ça va pas mal. On devient des anxieux, des nerveux. On dit Jésus me sauve, mais il a rien sauvé. C'est Nietzsche. On a pris hier, j'ai bien fait la phrase de Nietzsche. Il dit, moi, je croirais à l'évangile si les chrétiens avaient vraiment la gueule des ressuscités. Je croirais en Dieu si les chrétiens avaient vraiment la gueule des ressuscités. Hein? Quelquefois, on a plutôt le visage de gueule cassée, hein, de la Deuxième Guerre mondiale, avec toutes nos histoires d'église. Mais même Nietzsche, il dit, les gens, ils ont la théorie, mais est-ce qu'on voit dans leur vie ce signe certain qu'on est chrétien? Et je dirais, tikva, l'espérance. Voilà, je crois vraiment à cette victoire contre la mort et je mets en action cette capacité prophétique d'espérer. Je m'accroche à la corde. Et cette corde est Christ. Et même, il part d'une échelle à Bethel. Mais Dieu, il a mis une corde du ciel jusqu'à la terre. Et quand j'étais petit garçon, je ne sais pas si vous avez fait ça, on avait des cours de gymnastique, on devait grimper sur la corde. Quelle horreur! C'est horrible, parce que tu ne sais pas si tu vas arriver. Il y a des techniques, il faut faire ça avec tes pieds plutôt que tes... Tu vois, il faut... La corde, c'est l'horreur. Mais n'ayez pas peur. Hein. Grimper la corde de l'espérance, c'est... Il faut avoir la foi pour faire ça, c'est la seule chose. Saisir la corde de l'espérance. Monter. L'espérance. Tikva. C'est ça, quand les gens disent tikva, même l'hymne national d'Israël, c'est l'hymne au sujet de la corde, littéralement. Mais l'espérance, que Dieu mette l'espérance. Et elle a mis cette corde à sa fenêtre, ce petit cordon. Elle a mis ça à la fenêtre et toute sa famille était sauvée. Mais après, les espions, ils ont dit quelque chose. Verset 19. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang sera sur sa tête. Mais si l'on met la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête. Donc vous voyez, si vous restez sous la couverture de ce fil écarlate, du sang de Jésus, si vous restez dans la foi, dans la maison de Dieu, voilà, t'es protégé. Mais si vous... Je vais vivre ma propre vie, mais d'accord, c'est sur votre propre tête. Là. Parce que Jésus nous offre le salut. Il nous offre cette tikva, cette espérance, et il faut le saisir. Et il faut rester accroché à la corde. Il faut rester accroché à la corde. Tikva, la corde de l'espérance. Je prépare pour vous, une future fête d'espérance, un avenir fête d'espérance. Et je termine avec deux autres versets. Lamentation. Oh. Quel livre, Lamentation. Lamentation. Parce qu'il y a les lamentations dans la vie. Il y a des moments de lamentation. Il y a des moments de grande difficulté. Et lamentation, anxiété, ça peut nous pousser à une crise nerveuse, des moments de lamentation. Mais là, en Lamentation 3, Jérémie, il écrit, en chapitre 3, verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Qu'est-ce qu'on repasse dans son cœur? Ce que je veux repasser. Comme je dis, je veux être libre sur ce terrain. Mais comme je dis, vous pouvez passer une vie encore à s'inquiéter, à être « Oh, je vais repasser mes soucis sans fin. » Mais il dit, mais c'est ce que moi je veux repasser. Vous avez beaucoup de repassages cet après-midi, hein, les chemises. Mais qu'est-ce que je vais repasser dans mon cœur? Qu'est-ce que je vais repasser dans mon cœur? Il pose la question. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce pourquoi j'espère. Alléluia. J'espère. Et qu'est-ce qu'il espère? C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. C'est jamais trop tard. Et même après 2000 ans, les compassions de notre Seigneur Jésus ne sont pas épuisées. Ça n'a même pas diminué. Même avec tous les péchés autour de nous dans ce monde, les compassions de Dieu sont toujours là. Allez, saisissons ensemble les compassions de Dieu. Cette espérance qu'il n'y a pas une situation qui est trop difficile, qui est impossible à Dieu. Saisissons ces compassions. Ou vous pouvez quitter la maison en cassant la porte. Oh, je ne comprends rien, ce gars, il balbutie tout, je ne comprends rien. Allez, d'accord, félicitations. Vous avez gagné le grand lot de l'indépendance. Continuons à vivre nous-mêmes. Mais à un moment donné, il faut plier le genou et dire, Seigneur, je plie le genou devant toi et je crois et j'espère. Et les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité pour chacun de nous ici. Verset 25. L'Éternel est bon pour qui espère en lui. Dieu est bon. Oui, mais pour qui espère en lui? On dit Dieu est bon, après on va sombrer dans l'inquiétude. Merci. Dieu est bon pour ceux qui espèrent en lui. Donc faisons l'effort. Ce n'est pas automatique, c'est à vous de choisir l'espérance. C'est à vous de s'accrocher à la corde. C'est à vous de mettre ce signe certain à la fenêtre. C'est à vous d'avoir des paroles d'espérance sur votre lèvre. Quelquefois j'en ai marre, honnêtement. Je n'entends que des litanies négatives tout le temps des chrétiens. Que des choses, comme si Jésus n'est pas vraiment ressuscité pour eux, comme si Jésus n'a pas accompli des choses. Je ne vous condamne pas, mais essayons à pratiquer la réalité d'être sauvé. Et si vous n'arrivez pas, peut-être il faut remettre en place de dire, mais qu'est-ce qui me bloque là? Qu'est-ce qui me bloque vraiment là? Ça fait 20 ans que je suis chrétien et quelquefois, les gens disent, on ne voit pas beaucoup de changements, pas beaucoup de victoires. Et le propre d'être chrétien, c'est de vivre dans l'espérance, d'accord? C'est de vivre dans cette espérance, de s'accrocher à la corde. L'Éternel est bon pour qui espère en lui. Pour celui qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Qu'il s'assoie solitaire et silencieux, car c'est ce que lui a imposé. Qu'il mette sa bouche dans la poussière. Peut-être il y a de l'espoir. On peut s'accrocher toujours à l'espoir. On peut toujours avoir cette corde, cette tikva qui est là pour nous. Et pour terminer, Hébreux 6, dans le Nouveau Testament quand même, Hébreux 6, versets 18-19. Il parle d'un refuge. Le seul refuge, 6, 18, hein, le seul refuge a été de saisir l'espérance. J'aime bien cette idée, saisir. C'est Paul, il savait de quoi il parlait. Saisir la corde, saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité. Voilà cette espérance qui nous accroche à la rédemption de Jésus, au pardon de nos péchés, à l'espérance de la résurrection. Espérons ensemble ce matin. Tikva, tikva, notre espoir n'est pas vain. Espérance bimillénaire d'être un peuple libre sur notre terre. Seigneur, donne-nous cette liberté de cœur ce matin. Par ces paroles, opère en nous un travail d'espérance, Seigneur. Nous voulons nous débarrasser de ces pensées angoissantes. Seigneur, ces inquiétudes qui nous minent chaque moment de notre vie. Seigneur, on a tellement exercé nos muscles pour l'inquiétude, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons commencer à espérer. Seigneur, mets en nous comme un ancre, comme cette ancre, Seigneur. Seigneur, comme une ancre solide et ferme. Seigneur, construis cette espérance dans mon cœur ce matin, Seigneur. Je veux saisir le tikva. Je veux saisir la corde de l'espérance. Que ça soit un signe certain de mon salut accroché sur mon cœur ce matin, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Amen.